L'expérience commence. La tourmente, c'est une très forte tempête de neige qui empêche de voir, on peut se perdre. La légende veut que des cloches soient utilisées l'hiver pour guider les voyageurs à bon port. Éric Cordier et Nathalie Salle sont partis dans quatre villages entre l'Ardèche, la Lozère et le Gard. C'est un paysage déserté par les êtres humains. C'est la modestie des hameaux. C'est une immersion en son spatialisé à écouter sous votre casque, si vous le pouvez, pour vous transporter en pays occitan où le vent informe les cloches et où les cloches parlent aux humains. Nous partons pour un voyage d'une trentaine de minutes.
Ça s'y fait comme ça. Vous entendez ça toute la nuit, oui. Même au lit, les volets fermés. Oui. Savoir quand il va tourmenter, ça dépend du vent, comme je dis. Ça dépend de la tourmente quand elle arrive. Ça arrive des fois. Hein. Vite, oui.
Cloche de tourmente.
C'est une date de 1779, et voilà. Le clocher de tourmente. C'est des pierres, c'est une granite. Hein. Chaque clocher a son style, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, regarde, c'est pas pareil. Hein. On filme, ça sonne, hein. Petit abri, oui. Pour le sonneur, l'abri du sonneur. Je ne sais pas par qui ça a été construit, ça. Alors là, 1700 et quelques, moi j'étais pas là. Hein. À Ah ben ici, elle a servi communément d'auxerre. D'après les archives, moi, il y avait jusqu'à 90 habitants, là, oui. Et des agriculteurs, il y en avait une dizaine, même plus. Depuis 2003, il n'y a plus personne comme agriculteur. Et 2 habitants à l'année.
Les villages tels que Auriac ou tous ceux qui sont sur le pourtour du Mont-Lozère ont connu des périodes où ils étaient bien plus peuplés, des familles bien plus nombreuses. Ici, il y avait 2 maisons, la maison qui est actuellement ruinée là, ils étaient 17 enfants, et la maison juste en dessous, là, ils étaient 15. Début 1900, il y avait aux alentours de 70 personnes dans le hameau. Aujourd'hui, on est 7, 8. Ça grouillait de vie tous les jours. Chaque ferme embauchait des petits bergers, des saisonniers, des vachers, des faucheurs, des moissonneurs, plus les bergers qui montaient du Languedoc. Donc il y avait du monde dans le coin, quoi.
Il n'y a pas longtemps qu'il est tourmenté, là, au début du mois, là. Ben, il y a le vent, la neige, hein. La neige qui se promène, hein. Le vent emporte la neige, surtout poudreuse, en plus. C'est la neige, le vent, on est monté. Ça fait des congères. Il y a des endroits qui n'ont rien du tout, il y a des endroits qui ont de l'épaisseur.
On appelle ça un clocher de tourmente, ou oui, tout bêtement un clocher. Mais il n'a rien à voir avec un clocher de chapelle ou un clocher d'église. Hein. C'est juste un édifice en pierre. Celui-ci, il est d'un mélange de schiste et de granit. La pierre sommitale là-haut, c'est un granit noir qui doit peser quand même peut-être 800 kilos, voire une tonne. C'était des édifices qui représentaient un petit peu aussi la modestie des hameaux, ou pour certains peut-être une forme de richesse. Certains sont en pierre taillée, bien régulière. Celui-ci, ma foi, a été construit avec les pierres que les gens ont trouvées sur place, quoi. On a appelé ces clochers les clochers des tourmentes, mais c'est relativement récent. Avant, on disait juste la cloche du village ou le clocher. Ces cloches représentaient une fierté pour le village, hein, le permettait de reconnaître au son le nom du hameau. Donc, ce qui peut expliquer peut-être que pendant la dernière guerre, les gens avaient peur qu'elle soit démontée pour être fondue. Donc, certaines de ces cloches ont été enterrées. Celle-ci avait été enterrée juste dans le champ au-dessus, à quelques pas d'une borne de parcelle, avec pour témoin la personne la plus âgée du village et la personne la plus jeune. Un pépé de 90 ans et ma maman, donc...
on est au village des Sagnes. On est le dernier là.
En altitude.
Non, mais je veux dire, on est le dernier village de la route, quoi. Ça va pas plus loin. Après, il faut marcher à pied. On est dans le parc national des Cévennes, donc voilà, c'est les Sagnes. Mais malgré tout, encore, il y a un peu de monde. Des enfants qui vont à l'école, il y a le ramassage. On n'est pas trop perdu.
On est bien déneigé.
Et on est bien au soleil. Le village est bien exposé, donc voilà, et on n'est pas très loin d'Aurillac non plus. C'est un clocher sans église. Qui l'a construit.
Tout le bâti doit faire dans les 10 mètres ou 11 mètres avec la croix.
Oui, quand même, il est grand. Oui.
Et il fait, en largeur, il doit faire 3 mètres.
Plus que ça.
Non, il n'y a pas plus, 3 mètres.
La marraine du clocher habitait dans cette maison là-bas derrière, à l'époque. Il les bénissait, les cloches. Donc voilà, il fallait.
Il fallait une marraine.
Il y a peut-être une date, mais il faudrait y grimper.
Une date de 1800 et quelques.
Peut-être avant, mais.
Même avant, mais. Enfin, toujours 1800.
C'est dommage qu'il n'ait pas gravé dans une pierre. Mais bon, à l'époque. Où tu vas?
Je vais voir.
Non. Enfin, il a été solide quand même, parce que on n'a jamais vu tomber une pierre. Mes parents l'ont toujours vu et puis l'utilisaient davantage. Le monsieur qui habitait là, dans cette maison, sonnait l'angélus tous les matins. Quand il y avait des orages, aussi quelqu'un venait sonner la cloche, c'était souvent la même personne. Il disait que ça faisait dissiper les nuages pour faire partir l'orage. Chez les voisins.
Et puis les
et quand il y avait du décès
ils sonnaient le soir et le matin.
Et le matin, oui.
Ils avaient eu sonner le glas, mais c'est. Ça fait longtemps, ça n'existe plus. Hein. On a plus de 13 sommes. Oui. Oui, encore il en reste. La neige, ce qui reste. Mais il y en avait 40 cm au début du mois. Oui, il y en avait 40 cm. Et il avait tourmenté.
Sur le plateau du mont Lozère, quand il y a de la neige qui fait du vent, ça la soulève, ça fait de la tourmente, donc on ne sait plus dans quelle direction il faut partir, on est carrément désorienté. Entre le brouillard, la neige qui se lève et le vent, on ne sait plus où on est, quoi.
Ah ben, suivant le vent, oui, ça tourmente plus ou moins. Thank you.
ici, on est à Houlter. Et la particularité de ce clocher dit de tourmente, c'est qu'il est ménagé directement sur le four à pain du village, sur la porte d'entrée, ce qui lui donne une silhouette de chapelle quand on arrive de l'extérieur. Il y a une date au-dessus de la porte sur le linteau, 1872. On est ici dans du schiste, comme à Aurillac. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut sonner la cloche de l'intérieur. Donc en cas de pluie, en cas de mauvais temps, le sonneur est à l'abri.
On l'entendait, oui, dans les champs, on l'entendait. C'est vrai que c'était midi, il n'y avait pas besoin de montrer. Ouais.
Donc, il utilisait quand il y avait des orages ou que quelqu'un se perdait dans la neige ou dans le brouillard ou autre. On sonnait la cloche et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc ils se repéraient au son. Même s'il y avait du brouillard, ils arrivaient à retrouver leur chemin.
Oui, ça servait à diriger les gens quand ils allaient marcher à pied, parce qu'ils allaient même à Florac, là, au foire à Florac. Suivant le son de la cloche.
Des fois, ils partaient avec un temps clair, grand beau. Dans la journée, le brouillard arrivait ou la neige se mettait à tomber. Ça gommait très facilement les limites parcellaires et les chemins. Donc, pour que les gens puissent s'orienter, les habitants sonnaient la cloche. De manière régulière, mais pas incessante. Et les personnes qui étaient égarées ou qui ne savaient pas trop où elles étaient, elles se retrouvaient au son de la cloche, puisque chaque cloche avait un son différent.
On n'en peut plus. La tourmente, ça étouffe, hein, c'est pas froid. Hein. Quand il fait la tourmente ou du brouillard, il faut pas croire, on se perd. Ça va un moment de marcher dans la tourmente. Hein. Il faut savoir ce que c'est marcher dans la tourmente. Quand vous avez le vent et la neige qui vous tourbillonne dans la figure. Non, mais ça épuise, là, pas plus, hein. C'est tout, hein. Et puis ça étouffe. Hein. Vous prenez dans de la tourmente comme il faut, là, mais vous êtes équipé comme vous voulez. et puis la fatigue. Ça va bien de marcher dans la neige, d'un pied sur le pied de l'autre. C'est un moment, hein. Non, j'en peux plus, vous mettez là, vous laissez faire, vous attendez que...
Et l'épuisement fait qu'on n'est plus du tout logique. On a limite même plus peur. Si on trouve un bosquet ou un rocher pour se mettre à l'abri du vent, on est capable de s'arrêter pour se reposer. Et là, c'est le mauvais choix, parce que on peut se faire prendre très rapidement par le froid, on se sent bien. On dit que mourir dans le froid, c'est la plus belle des morts parce qu'on ne sent rien. Et c'est vrai, hein, surtout si on est épuisé en plus, si on est vraiment fatigué. On se rend compte de rien, quand on s'arrête, tout va bien. On est content de se reposer, puis c'est un grand repos.
Comme les moines, partir le soir, plein mois de janvier, traverser le mont Lozère, faites gonfler. Même qu'ils aient fait de la survie à haute montagne, ça ne leur a pas rapporté.
De toute manière, ils avaient pris un risque énorme de partir à la nuit tombée ou à la nuit tombante. Pour un parcours d'une vingtaine de kilomètres dans la neige, quoi. C'était risqué. Quoi. Il neigeait fort, c'était une neige lourde, une neige humide, et il y avait beaucoup de vent et un brouillard assez épais. Ils sont restés donc sur le versant nord, jusqu'à un endroit avec un dévers un peu important. Et là, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont perdu un ski? Est-ce que l'un d'eux a eu un problème physique ou quelque chose s'est passé? Ils ont été retrouvés 3 semaines plus tard, au bord d'un ruisseau, côte à côte. Les sacs étaient à une centaine de mètres au-dessus et 3 skis. Quelque chose s'est passé, ils ont été inquiets, ils ont paniqué parce qu'on ne pose jamais son sac à dos lorsqu'on est en randonnée en hiver, au risque de ne pas le retrouver. Eux étaient en autonomie, ils étaient partis pour une semaine, ils avaient à peu près 30 kg de matériel chacun, donc ils avaient de quoi bivouaquer, ils avaient des duvets, ils avaient des abris de montagne, de la nourriture, des vêtements de rechange. Ils allaient sur les crêtes, donc ils allaient passer à proximité d'un des hameaux où il y avait une cloche. Le plus probable c'était Auriac, mais ça pouvait être aussi les Salles. On a effectivement sonné, peu de temps, quoi. On ne savait absolument pas où les chercher.
Je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que la tourmente au moins? Vous avez été pris dans la neige quand il a fait du vent? Moi, ça m'est arrivé. Par temps de tourmente, vous savez, quand vous avez la neige qui vous file dans les yeux et que vous voyez 1 mètre devant vous, difficile de s'orienter. Surtout sur le mont Lozère. Vous savez, pris dans la neige, dans une tourmente, mon pauvre, à partir du moment où vous ne voyez plus, où vous ne pouvez plus avancer, et que le vent souffle, que le froid vous saisit, vous êtes obligé de rester là. Ici, les cloches, ça n'a jamais servi à la tourmente. Eh bien, vous savez, vous pouvez sonner les cloches tant que vous voulez, ça peut servir à rien du tout. Je ne pense pas. Parce que le son des cloches, ça peut orienter un peu. Donc, tout dépend d'où vient le vent. Et oui. Oui. Et puis d'abord, il aurait fallu, pour ces systèmes-là, comme nous, on est dans le fond, il aurait fallu qu'elles soient beaucoup plus hautes, sur une crête par exemple. Il y aurait eu un clocher de tourmente au pic Finies, sur le mont Lozère, là j'admets, mais celui des Sagnes, c'est un peu dans un trou. À Aurillac, il y en a un autre. C'est encore dans une cuvette. À Oulté, c'est pareil. Alors comment voulez-vous que... Non, son nom, je pense pas.
Cloche de tourmente. Une expérience d'Éric Cordier. Réalisation Nathalie Salle. Prise de son et mixage Pierrick Charles. Avec la participation de Nelly Lafont, Monsieur et Madame Masson, Francis Pagès et André Saint-Léger. Musique Éric Cordier. Attaché d'émission Inès Duperron. Coordination Aurélie Charron.
Demain soir, dimanche, à 20h dans l'expérience, les confessions d'un athée qui aime la Bible et le blasphème. Thomas Guillaume Bataille repart à l'origine de ses racines chrétiennes. En attendant, c'est l'heure de la fiction avec Blandine Masson. Et si vous avez mis votre casque, gardez-le, le son est spatialisé, la fiction est en 3 dimensions.